Chapitre 9. L'attente. Thérèse avait l'âme du monde, la moins faite pour accepter le mystère, pour endurer l'incertitude et l'attente. Surtout l'attente. N'était-ce pas déjà son impatience d'une situation équivoque qu'il avait jetée dans les bras de Pierre? Les yeux fixes, elle regardait cette lettre sans la relire, car du premier instant, elle la savait par cœur, son cerveau l'avait enregistrée sous le coup d'un lourd pressentiment de désastre. Machinalement, elle monta dans sa chambre pour s'y cacher. Elle se laissa tomber sur le lit, dans l'oreiller, où elle enfouit son visage. « Ce n'est pas vrai! Ce n'est pas vrai !» répétait en elle une voix convulsive. « Il va revenir !» Non, puisqu'il lui laissait tout son argent, avec le conseil de rentrer à Londres. Il lui écrirait « poste restante ». Cela, c'était un rayon dans le trou noir. De quelles circonstances était-il le jouet? Un jouet, lui, l'homme avisé qui savait tout, qui se tirait d'affaires partout, habile à prévoir et à combiner? Dans l'écheveau confus de ses idées, Thérèse tirait tantôt un fil, tantôt l'autre. Ce reçu de bagages, elle l'examinait. Une malle, une caisse. Les bagages de Pierre avaient donc été consignés à part. Pourquoi cela, puisqu'ils devaient être retirés ensemble, au retour de Londres, de M. et Mme Pierre Coombe? À la rigueur, cela s'expliquait. Pierre avait consigné ses effets avant de venir prendre ceux de Thérèse au logis rose. Oui, ce devait être cela, c'était logique. Elle relut l'adresse qu'il indiquait pour la poste restante, TL 3333. Pourquoi TL et non TC? Elle se dressa comme si un ressort se déclenchait en elle. Elle courut à l'armoire au fond de laquelle, soigneusement, elle avait serré la jolie valise de Pierre. La clé était dans son porte-monnaie. Sa main tremblait, elle eut de la peine à rencontrer la petite serrure. Oui, le compartiment intérieur contenait bien, comme la lettre l'indiquait, une grande enveloppe avec deux ou trois billets de banque. Mais Thérèse cherchait autre chose, fouillant présentement les poches intérieures et extérieures de la valise, qui d'ailleurs était vide, car Thérèse avait disposé le linge et les vêtements de son mari dans l'armoire et les tiroirs de la commode. Il y avait encore le nécessaire de toilette sur la table à miroir penché dans l'embrasure de la fenêtre. Ce nécessaire, tout neuf, sans initiale, assez modeste et acheté à la hâte la veille du départ, contenait sous les brosses et le casier des ciseaux, limes et autres fins outils, un petit buvard dont Pierre ne s'était pas encore servi. Thérèse le tira hors de la place où il était incrusté, tourna les feuillets blancs, tâta la reliure, ne trouva rien. Était-il possible que, par inadvertance, Pierre eût emporté le papier qui signifiait pour elle tout le présent et tout l'avenir, cette licence qu'elle avait à peine vue en la signant dans l'obscur bureau du registrar? Son honnête acte de mariage, un document officiel qu'on pouvait montrer à n'importe qui. Toujours taquin et contrariant, Pierre, quand à deux ou trois reprises, Thérèse avait dit « Mais tiens, à propos, laisse-moi voir cette licence !» avait répondu « Je ne l'ai pas sur moi, elle est dans mon nécessaire, peut-être dans ma valise. Je te la ferai encadrer quand nous serons chez nous, ce sera une surprise. » Thérèse avait toujours trouvé impossible d'insister quand Pierre, en riant, esquivait ses questions. Il avait le talent ennuyeux de la mettre tout doucement dans son tort de curieuse et d'indiscrète. Et après ces évasions-là, Thérèse pensait naïvement « Attends un peu, tout ça va changer quand nous serons en ménage. » Comme elle refermait le nécessaire, déçue, anxieuse, ses yeux tombèrent sur une petite coquille de nacre qui servait le jour de cendrier à Pierre et le soir de baguier. Elle avait remarqué qu'avant de se mettre au lit, Pierre retirait une grosse bague à chatons de topaze, à monture ancienne et aussi son alliance, ce qui déplaisait vivement à la jeune femme. Un filet d'or uni, ce n'était pas bien gênant pour dormir. La coquille était à moitié poussée derrière le miroir. En se penchant, Thérèse venait d'y voir briller de l'or. Ce n'était pas la grosse bague, c'était l'alliance. Il n'aimait pas cet anneau, elle le savait. Un Anglais est-il ridicule quand il porte l'emblème qui le signale comme un homme marié? Déjà, plus d'une fois, le matin, Pierre avait oublié ou négligé de passer l'alliance à son doigt. Thérèse se dit, au nain de ses pensées involontaires, « S'il était mort, je porterais les deux anneaux, c'est la coutume des veuves. » Elle glissa le plus grand à son doigt, derrière le plus petit. Elle considéra sa main longtemps. De toutes ses forces, elle résista à la terreur insaisissable qui l'enveloppait comme un brouillard de glace. « Non, non, je suis folle. Il va revenir. Ou bien il m'écrira. Tout s'explique dès l'instant où je réfléchis de sang-froid. Il a emporté la licence par mégarde. Nos bagages séparés, cela se justifie parfaitement. Ce n'est pas pour cette querelle que nous avons eue qu'il me punirait en me quittant quelques jours. Une querelle d'amoureux. Il la désirait même. Il m'a dit, le jour où tu te fâcheras, nous serons sauvés. » La journée était trop avancée pour que Thérèse pût commander une voiture et aller prendre à Gloucester un train de nuit. Se raidissant pour sembler calme, elle annonça à la bonne femme que M. Coombe, ayant été rappelé par une affaire imprévue et le mois de location étant presque écoulé, elle-même ne désirait pas rester seule pour finir la semaine et s'arrangerait à partir le lendemain. La bonne femme exprima des regrets, des vœux pour M. et Mme qui avaient été de bien gentils pensionnaires. Elle offrit ses services pour les emballages, copia sa recette du pâté de rognon et la remit à Thérèse en souvenir. Elle courut ensuite au village malgré l'heure tardive et commanda le petit phaéton du voiturier. Dans sa seconde nuit d'insomnie, Thérèse revécut les derniers mois pour tâcher d'en comprendre le sens. Depuis leur dramatique rencontre dans le quartier de Sevendial, Pierre Coombe avait cherché, suivi, dirigé, amusé, irrité, obsédé Thérèse. Ah, certes, il lui avait donné de jolis moments. Les nénuphars, la petite crique dans sa ceinture de myosotis, puis le thé et les fraises dans le jardin aux arceaux de rose, le musée de porcelaine, les grands parcs et les quais et les ponts, les causettes et le perpétuel badinage et l'éternel, si nous supposions. Ensuite, le logis rose, les affreux soucis, le mariage, où elle s'était jetée par détresse, à la fois, et par amour. Par amour, pourquoi Pierre avait-il dit une fois, comme s'il se parlait à lui-même, « Ai-je trop entrepris, beau glaçon ?» Mais alors, que lui fallait-il, mon Dieu ? Il avait tout pris. N'aurait-elle peut-être pas assez donné, ignorante, gauche, éperdue ? À quoi tient la vie ? Ce cercle de fatalité s'était noué au petit fil conducteur qu'elle avait tendu elle-même en laissant son adresse à Trondiche de la Maison des Miroirs. Si elle l'avait laissé à Mistress Naimol, Pierre Coombe ne l'aurait pas obtenu. Oh, qui sait, il était opiniâtre et subtil et amoureux fou, du moins il le disait. Mais alors, il reviendra puisqu'il m'aime encore. Une lettre m'attend peut-être à Holborn. Ah, je voudrais être partie. Que la nuit est longue! Sa première résolution, au lever, fut celle-ci. Ne pas m'affoler, me conduire en personne raisonnable, ne pas douter de Pierre. Comme elle partait de bonne heure et qu'elle eût dû attendre assez longtemps l'express pour Londres, elle se força à visiter la cathédrale. Aucune image ne s'imprima dans son cerveau bloqué par une préoccupation unique. Aucun souvenir ne lui resta jamais de la cathédrale de Gloucester. Elle garda cependant la satisfaction de s'être conduite en personne raisonnable dans ce moment-là et pendant tout le voyage. Froide, réservée, correcte, elle ne rencontra jusqu'au bout que la discrétion silencieuse des Anglais en chemin de fer, à qui l'idée ne viendrait pas, comme aux Français, d'offrir à une jeune femme un service superflu afin d'entamer la conversation. En Angleterre, pour saluer dans la rue comme pour causer en wagon, c'est la dame qui doit prendre l'initiative. Nuance de tempérament et de courtoisie. À l'avant-dernier arrêt, un monsieur qui avait entendu Thérèse, avec son accent étranger, demander un renseignement au contrôleur, se tourna vers elle comme il quittait sa place, mettait son chapeau et ouvrait la portière. « Votre station, la prochaine, » dit-il. Et il disparut. « Voilà bien comme ils sont, » pensa Thérèse. « Ah, ils ne s'imposent pas. Il faudra que je raconte à Pierre ce petit fait. » Un peu de courage et d'espoir lui étaient revenus pendant ces longues heures de silence. Elle avait reconquis un certain calme et s'était promis d'attendre sans s'énerver pendant 3 jours, 5 jours, même 10 jours, ce qu'il faudrait. et dans l'intervalle, d'une heure à l'autre, ne faire que des gestes, des démarches de bon sens que Pierre aurait approuvées. Lui obéir. Donc, dès l'arrivée, se débrouiller le mieux possible. Elle courut au dépôt des objets en consigne. Elle reçut d'un fonctionnaire obligeant deux adresses, celle d'un garde-meuble pour y envoyer sa lourde caisse de livres et celle d'un petit hôtel modeste, voisin de la gare Victoria. Elle y prit la chambre la moins coûteuse et se dit « Je mangerai n'importe où. Il faut que je sois économe. » À peine installée, elle compta son argent et se trouva assez pauvre. Pierre avait payé leur pension chaque semaine. Il n'était resté que la dernière à régler, deux livres. Ah, la vie n'était pas chère dans le comté de Gloucester. La voiture, le voyage, les petits frais à la gare, deux souverains, des demi-couronnes et des pences dans son porte-monnaie, tout bien additionné, puis la soustraction faite, Thérèse serra 6 billets d'une livre dans son petit portefeuille qu'elle cacha au fond de la malle, fermée à cadenas. Tout était inscrit, elle pouvait rendre ses comptes à Pierre jusqu'au dernier centime. Elle fit ses plans pour le lendemain. Un hôtel à Londres est toujours trop cher, si médiocre soit-il. C'est la pension de famille qui offre l'économie avec la respectabilité. Mais Thérèse ne songea pas un instant à la pension Stephen. Galimard, à qui elle avait écrit « Je suis mariée, je suis heureuse, je vous en souhaite autant », Galimard, fine, avisée, sceptique, ne se contenterait pas d'explications vagues, les seules que Thérèse put lui donner. Une autre pension se trouverait pour la période d'attente, puisqu'il fallait attendre.